Le journal Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le changement, c'est maintenant, mais ce n'est peut-être pas celui que l'on imaginait. Le pass vaccinal entre en effet en vigueur ce lundi. Concrètement, pour les Français de plus de 16 ans non vaccinés, il sera impossible d'aller au cinéma, de boire un café, de prendre les transports longue distance, train ou avion. Et vous allez l'entendre, eh bien cette mise à l'écart divise profondément la population. Reportage dans les rues de Paris, Thibaut Hue.
Quand on l'évoque, certains s'agacent. Le pass vaccinal, Fabrice l'attendait depuis longtemps, fatigué par les restrictions sanitaires.
Moi, je dis que c'est une bonne chose. Si on veut sortir un peu du bazar, faut qu'il y ait un maximum de gens qui soient vaccinés, c'est tout. Ceux qui ne sont pas vaccinés, on a moins de liberté à cause d'eux, pour une minorité de gens.
Christelle, elle aussi, espère qu'il sera enfin le moyen de retrouver la vie d'avant.
Moi, à choisir, je préfère ça à me retrouver confinée à la maison. Ça permet aussi de pouvoir avoir accès aux magasins, aux restaurants, et ça me semble normal.
Mais ce nouveau pass ne fait pas l'unanimité. Johan est vacciné mais ne soutient pas la mesure.
Je comprends pas qu'on oblige les gens à se faire vacciner, enfin de façon discriminatoire. Il n'y a plus aucune sortie, il n'y a plus aucun loisir, quoi. C'est punitif comme loi.
Anaïs a le même avis, elle juge le dispositif trop violent.
Moi je trouve que c'est un peu limite, on est retourné au temps de la dictature là, parce que ça attente à la liberté, sachant qu'on est un pays qui prône la liberté pour tous. Moi je trouve ça inadmissible, après à voir. Hein.
Mais en attendant, ces réfractaires au pass vaccinal espèrent au moins qu'il sera suspendu après le 31 juillet.
Voilà, et ce pass vaccinal, il a des règles un peu complexes. On les détaillera dans le journal de 8h. Pour l'heure, direction le Mali, où la mort d'un militaire français ce week-end pose une nouvelle fois la question de l'avenir de l'opération Barkhane.
Le brigadier Alexandre Martin est le 53e militaire mort au Sahel depuis 9 ans. Il a été tué lors d'un bombardement au mortier du camp de base de l'opération Barkhane à Gao. Et c'est ce qui a de quoi inquiéter William Molinier. Les terroristes n'ont pas choisi cette cible au hasard.
Absolument, c'est l'épicentre de la logistique militaire française au Sahel qui a été ciblée. Cette base d'appui permanent, comme l'appellent les états-majors, a un intérêt très stratégique pour l'armée dans la zone. Et encore plus depuis le début du repli des Français il y a quelques mois, puisque les bases de Kidal, Tessalit et Tombouctou ont toutes été transférées vers Gao. Il y a aujourd'hui 4800 soldats français déployés dans la zone. Ils ont à disposition 6 drones, 7 avions de chasse, 20 hélicoptères et 430 véhicules blindés. Le nombre de militaires va passer sous la barre des 3000 l'été prochain, des effectifs en diminution de 40%, donc censé sécuriser une région qui fait à peu près la taille de l'Europe.
Mais autant dire, William, mission quasi impossible. Si les djihadistes reprennent du terrain, est-ce que cela pourrait accélérer le retrait français du Mali ?
Eh bien, c'est là la situation totalement inconfortable dans laquelle se trouve Emmanuel Macron. Toutes les lignes rouges posées par la France ont été franchies. La junte n'a pas organisé les élections. Elle a eu recours aux mercenaires russes du groupe Wagner et elle a entamé un dialogue avec les terroristes. Mais un retrait définitif du Mali serait très certainement profitable aux djihadistes. Cela déstabiliserait encore plus les pays frontaliers comme le Niger ou le Burkina Faso. Et en France, cela deviendrait évidemment en pleine campagne présidentielle un sujet de débats électriques. Et jusqu'à présent, Emmanuel Macron est resté très silencieux sur cette question. Pas sûr qu'il le soit encore longtemps si les conditions d'intervention sur place continuent à se dégrader.
William Molinier du service Polyjustice d'Europe 1.
La politique, Éric Zemmour, poursuit son objectif, construire l'union des droites autour de lui.
L'entreprise de déstabilisation du Rassemblement National donne quelques résultats avec le ralliement de Jérôme Rivière et Gilbert Collard qui l'ont accompagné ce week-end à Cannes. En revanche, du côté des élus républicains, hormis Guillaume Pelletier, on se fait encore tirer l'oreille. Le chantier s'annoncerait-il plus compliqué que prévu, Victor Chabert ?
Eh bien, l'équipe d'Éric Zemmour assure que non. Selon l'entourage du candidat, les ralliements se presseraient, notamment du côté des Républicains. Et ils auraient désormais pour principal problème de trouver le bon timing pour les annoncer. Mais pour l'instant, hormis Guillaume Pelletier, aucune autre personnalité LR de premier plan n'a franchi le pas. Du côté des Républicains, d'ailleurs, on se veut assez serein. On ne craint pas les défections. Et Valérie Pécresse reste assez haute dans les sondages. Un élément important, car si elle baisse, cela pourrait pousser des cadres à rejoindre Éric Zemmour, c'est d'ailleurs le pari des stratèges de reconquête. Pour eux, Valérie Pécresse va baisser dans les sondages et côté Marine Le Pen, les ralliements venant de son propre camp vont la fragiliser. Or, il ne suffit que de quelques points pour qu'il passe devant les candidates LR et RN et les électeurs sont très volatiles dans leur choix. Preuve de la confiance qui règne dans le camp Zemmour après un week-end de campagne plutôt réussi, un bain de foule sans encombre et un meeting devant plus de 4000 personnes à Cannes. On pense que le mois de février sera le mois de l'inversion des courbes.
Victor Chabert du service politique d'Europe 1.
Voilà, une banque qui tombe, ça n'arrive pas tous les jours. C'était le premier acteur à investir le marché français de la banque en ligne. ING plie bagage.
Et après 20 ans de présence, le néerlandais ING ferme sa banque et laisse 1 million de clients dans l'expectative. Maud Descamps, qu'est-ce que ça signifie pour eux ?
eh bien, ils auront deux choix, devenir clients du nouvel opérateur qui rachètera ING. On sait que deux banques, Société Générale et le Crédit Mutuel, sont en lice. Ou alors transférer leur argent dans une nouvelle banque de leur choix. Mais pour le moment, aucune information sur les modalités n'a été donnée aux clients d'ING. Contactée par Europe 1, la banque indique simplement ceci. Des discussions étant en cours avec d'autres établissements financiers, nous ne pouvons pas donner plus de précisions à ce stade. Une réponse qui est loin de satisfaire Michel Guillot, président de l'association France Conso Banque.
Ce qu'on leur reproche, c'est de ne pas avoir assez communiqué sur la façon dont ça se ferait. C'est de laisser en suspens la question du coût des transactions. Transfert de compte, c'est éventuellement de vouloir se débarrasser des petits comptes. Et ça nous paraît contrevenir gravement au fait que la banque est perçue par nos concitoyens comme étant un service public.
La banque a toutefois précisé que les comptes titres et les plans d'épargne en action, les PEA, pourront être transférés sans frais. ING qui ne va donc conserver en France que sa banque à destination des grandes entreprises.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1.
Allez, direction l'Australie. Le tennis et la qualification, il y a quelques minutes, pour les quarts de finale de l'Open d'Alizé Cornet, la Française. C'est la première fois qu'elle atteint ce stade d'un tournoi majeur du Grand Chelem. Elle rejoint Gaël Monfils en quart de finale.
Dixième quart de finale en Grand Chelem pour le Français qui affrontera l'Italien Matteo Berrettini. Gaël Monfils, c'est l'histoire d'un joueur talentueux et déroutant. C'est aussi l'histoire d'un clin d'œil. L'an dernier, c'est à Melbourne que tout a failli s'arrêter. 12 mois plus tard, Melbourne est l'acte de naissance du nouveau Monfils, Jean-François Pérez.
Oui, Gaël Monfils avait ému le monde du tennis l'an passé à Melbourne. Éliminé dès le premier tour par un inconnu, il avait fondu en larmes en conférence de presse.
Je vais te donner la phrase simple de ma mère, elle va me dire, tu vois, il faut continuer à s'entraîner et ça reviendra.
Nombreux étaient alors ceux qui anticipaient la retraite sportive de l'ex-numéro 6 mondial, mais le Parisien a tenu bon malgré des contre-performances parfois décourageantes. Il a continué de s'entraîner, écoutant les conseils de sa maman. Il a changé d'entraîneur, de raquette aussi. Il s'est marié, partageant son bonheur sur les réseaux sociaux. Gaël est redevenu mon fils. Aucun set perdu depuis le début de la quinzaine australienne et un appétit d'ogre avant d'affronter le redoutable Berrettini, finaliste à Wimbledon l'an passé.
Un des meilleurs serveurs du circuit, beaucoup de gagnant, un énorme coup droit, quelqu'un qui te bouscule vraiment. Quoi.
Ce sera le 10e quart de finale de Gaël Monfils dans un tournoi majeur, comme Noah, dernier Français vainqueur en Grand Chelem, comme Tsonga, dernier finaliste, il y a déjà 14 ans.
Voilà, et Monfils Berrettini, ce sera la nuit prochaine à l'Open d'Australie. Juste un mot de football, le PSG a largement battu Reims 4-0 hier soir en clôture de la 22e journée de Ligue 1.
Merci Christophe Lamar. Tiens, Monfils, il s'est trouvé comme coach. Günther Besnik, c'est un Autrichien, c'est lui qui a formé Dominic Thiem dans sa jeunesse. Alors il paraît que c'est un dur de dur sur le physique. C'est ça qui fait le nouveau Gaël Monfils. Allez, à suivre.